Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Si j'ai choisi de mettre de la cornemuse en fond et d'enregistrer cet épisode en kilt... Oui, bon, désolé, c'est un podcast, donc vous n'avez pas l'image, mais vraiment, c'est très impressionnant comme vision. Eh bien, si j'ai fait ça, c'est évidemment parce que nous allons nous rendre du côté de l'Écosse. Oui, bon, bah, vous l'aviez deviné, je pense, hein, car à force d'écouter ce podcast, votre culture générale s'est considérablement améliorée. Eh bien, sachez que je suis fier de vous. Voilà. J'espère que grâce à moi, vous gagnez des camemberts au Trivial Poursuite. Voilà, ce sera une si belle récompense pour tout ce travail. En attendant, revenons à nos moutons, et ils sont nombreux en Écosse. Direction la région des Highlands. Qui vous dit certainement quelque chose si vous avez déjà vu Highlander. Alors bien sûr, il y a eu le film avec Christophe Lambert, mais moi je l'ai jamais vu. En revanche, j'adorais la série avec Adrien Paul et le générique de Queen. À la fin, un seul d'entre nous survivra. Here we are, born to be kings, we're the princes of the universe. Et oui, je parlais bien de Duncan MacLeod, du clan des MacLeod, et originaire des Hautes Terres d'Écosse. Mais on n'est pas là pour parler de l'homme immortel, même si, on peut le dire, la bête qui nous intéresse a également traversé les siècles. Nous allons parler du fameux monstre du Loch Ness. En vrai, moi, le monstre du Loch Ness, je savais pas bien ce que c'était. J'avais vu quelques photos, comme tout le monde, en noir et blanc et de très loin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Tout commence en 1933. Adolf Hitler est nommé chancelier et... Ah non, pardon, je me trompe de monstre. Celui du Loch Ness est quand même clairement plus sympa. Nous sommes donc le vendredi 14 avril 1933. Début de week-end, le temps est clément et Mr. et Miss Mackay, un couple d'Écossais hôteliers, longent en voiture la rive nord du Loch Ness. Par la fenêtre, cheveux au vent, Miss Mackay admire ce grand lac typiquement écossais qu'on appelle un loch et qui mesure 40 km de long, 2 km de large et dont la profondeur atteint 270 mètres. Quand soudain, stupeur, elle baisse ses lunettes de soleil et remarque un étrange bouillonnement dans l'eau. Elle apostrophe avec véhémence son mari qui freine brusquement et s'exclame « What the fuck is going on ?» avec un accent écossais peu piqué des hannetons. Le couple voit alors apparaître une énorme créature au corps de baleine roulant sur elle-même et plongeant à plusieurs reprises dans les eaux sombres du loch. De retour chez eux, ils contactent Alex Campbell, garde-pêche du loch, mais aussi correspondant du journal local à ses heures perdues, The Inverness Courier. Voilà, c'est dommage, ça aurait pu s'appeler le journal local, mais non, c'est vraiment le Inverness Courier. Alors normalement, c'est à ce moment-là que tu demandes à tes amis s'ils ont consommé des substances illicites, mais là, non. Campbell, il leur dit même
« Ah, j'en étais sûre. Je savais bien qu'il y avait un drôle de truc là-dedans. On va l'appeler le monstre du Loch Ness. »
Bon, quelques années plus tard, Aldi Mackay dira qu'en réalité son mari n'a rien vu car il ne s'est même pas arrêté et qu'elle, elle pensait plus à deux canards qui se battaient, mais peu importe. Campbell publie un article le 2 mai 1933 qui fait la une du journal
« Étrange spectacle sur le Loch Ness. »
Bien évidemment, l'auteur est anonyme, ainsi que les deux témoins de cette histoire. Cela dit, le couple Mackay n'est autre que le propriétaire d'un hôtel dans la région. De là à croire qu'ils ont fait ça pour faire de la pub pour la région et attirer les curieux, non, ce serait... vraiment, ce serait... oh non... La nouvelle se répand dans la presse de Glasgow à Londres, des gens s'intéressent de plus près à cette fameuse histoire, et c'est le début de la saga du monstre du Loch Ness. La crise de 1929 a laissé la Grande-Bretagne dans une profonde dépression et une période de chômage sans précédent. Les gens ont donc certainement besoin de rêver un peu et de s'échapper, bref, sa mort. Sa mort tant et si bien qu'à l'été 1933, les Highlands sont pris d'assaut par les touristes qui affluent au bord du loch, espérant apercevoir ou même capturer Nessie, comme on le surnomme désormais. Et c'est vrai que Nessie, c'est trop mignon, ça fait pas du tout nom de monstre, si. Tu sais, j'ai l'impression qu'on parle d'un chien trop mimes, quoi. Genre, Godzilla, c'est quand même autre chose, non? Hein? Non, c'est un peu plus badass que Nessie. Cela dit, ce qui est bien avec Nessie, c'est que ça permet de faire des jeux de mots du type « Le monstre est attendu comme le Nessie ». Excellent. Ou bien, comme on a après 33, du coup, maintenant, en Allemagne, c'est les Nessies qui sont au pouvoir. Ou, tu penses qu'il est poli, Nessie? Ou encore, mon père est né là-bas, ma mère est née là-bas, moi je suis née ici, dans le Loch et le whisky.
Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas, moi je suis née ici, dans la misère et les cris.
Bref. Voilà, après chacun prend ce qu'il veut, hein, on pécore Nessie de là. Alors durant l'été, plus de 20 personnes affirment avoir vu Nessie pour de vrai. Pour certains, c'est plus un serpent de mer ou un gros poisson. Et pour d'autres, on est plus sur un animal avec un long cou entre le dinosaure et l'éléphant. Un couple a carrément vu un animal de type préhistorique qui ressemble à un dinosaure traverser la route devant eux avec un animal dans la bouche.
Ah !
Bon, là, c'est qu'il faut peut-être un petit peu se calmer en termes de whisky, quoi. Évidemment, les locaux veulent aussi surfer sur la vague Nessie. Bah oui, tant qu'aff. Donc, hormis les maquets qui s'en mettent plein les fouilles en remplissant leur hôtel, les autres transforment leur commerce en boutique souvenir avec des boules à neige Nessie, des mugs Nessie et même du thé Nessie. Et même le directeur d'un cirque londonien qui promet 20 000 livres pour celui qui capturera la bête pour sa ménagerie. C'est la folie Nessie. Bon, alors vu de l'extérieur, tu te dis quand même, soit tous les gens convaincus d'avoir bu la bête sont victimes d'une hallucination collective, soit soit il faudrait une preuve, une photo, quelque chose de tangible qui pourrait bien convaincre les plus sceptiques.
Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective.
Eh bien, elle arrive le 13 novembre 1933, prise par un Londonien en vacances. Le 6 décembre, elle est quand même publiée dans les journaux, accompagnée de la déclaration officielle de Kodak qui atteste que le négatif n'est pas retouché. Bon alors, elle est très floue, hein, on n'y voit que dalle, donc ça convient pas à l'opinion publique. Mais ça continue de nourrir l'espoir de l'existence de ce monstre. C'est en avril 1934 que LA photo va enfin arriver, prise par un gynécologue londonien, Robert Kenneth Wilson, de passage dans la région, comme quoi il a encore eu beaucoup de chat sur ce coup-là, hein. On voit clairement une forme animale émerger de l'eau avec un long cou et une petite tête. Le cliché noir et blanc est publié dans le Daily Mail le 21 avril 1934 et il fait le tour du monde. Le monstre du Loch Ness n'était donc pas une légende. Pour les plus cartésiens, il s'agit d'une loutre ou d'un morceau de bois flottant. Mais l'hypothèse qui fait le plus de bruit est celle qu'il s'agirait d'un plésiosaure, un reptile éteint de la période jurassique. En juillet 1934, Sir Edward Montaigne, grand mania de l'assurance, finance les premières recherches officielles. Il embauche 20 chômeurs, équipés de jumelles et d'appareils photo pour surveiller le lac. Ce qui doit être vraiment bien sympa, hein, vu l'atmosphère de films d'horreur qui règne dans ce coin brumeux, gris et froid. Hein. Alors quelques photos sont prises, mais une fois développées, elles ne révèlent rien de bien concluant. J'espère qu'ils n'ont pas payé au moins, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais déjà à l'époque, quand on allait faire développer ces photos, bon, on était toujours gênés que quelqu'un ait pu voir nos clichés parfois, pas hyper artistique, mais surtout quand la photo n'était vraiment pas de bonne qualité, souvent trop sombre, et ben, on la développait, donc on l'avait quand même, mais il y avait un autocollant non facturé dessus. Voilà, je développerai après plus cette anecdote incroyable. Bref, suite au flop de l'opération, le monstre allemand, qui lui est malheureusement bien réel, reprend toute la lumière et la guerre fait passer Nessie au second plan. Pendant 20 ans, le tourisme est plutôt calme du côté des Highlands. Je profite quand même de ce répit pour vous raconter l'histoire de Saint Colomba, un moine irlandais. Car je vous ai pas dit toute la vérité. Ouais, moi aussi j'ai mes petits secrets. En fait, la première évocation d'un monstre dans le Loch Ness date de 565. Cette année-là, Saint Colomba aurait... quand même vraiment Saint Colomba, ça fait un peu Saint Colombin. Et... Bon, j'ai l'esprit mal tourné, je reviens au truc. Saint Colomba aurait accompli une sorte d'exploit mystique. Il aurait sauvé un nageur qu'il avait lui-même envoyé dans les eaux du lac pour vérifier s'il y avait ou non un monstre. Donc j'imagine le dialogue.
Ok, bah tu sais quoi? Va nager un peu dans le loch là et tu me dis s'il y a un monstre.
Mais du coup, je fais quoi s'il y a un monstre?
Bon, déjà on aura l'info et puis après, je lui dirai de te laisser tranquille.
Ok, ouais, ça me paraît être un bon plan.
Le nageur tombe alors sur la bête, qu'on va appeler Nessie pour plus de praticité, qui lui fonce dessus, et là, Saint Colomba invoque la puissance de Dieu et lui ordonne de se cacher dans les tréfonds du loch. Et le monstre obéit. Voilà, fin de mon soliloque, Ness. Retour au XXe siècle. Dans les années 50, sous l'impulsion de Bernard Heuvelmans, un zoologiste, une nouvelle science fait son apparition, c'est la cryptozoologie. Alors rien à voir avec les bitcoins pour les pingouins, non? Il s'agit de l'étude des animaux cachés, encore ignorés par la science, mais souvent connus par les habitants des régions où ils vivent, comme le Yeti par exemple. On considère la cryptozoologie comme une véritable branche de la zoologie, ou une pseudo-science pour grands rêveurs, c'est vraiment selon. En 1960, un jeune ingénieur passionné, Tim Dinsdale, filme un objet mystérieux avançant à travers le loch. Est-ce le monstre, même si on ne voit pas de long cou? Ou bien un phoque? Un bateau? L'or Manodou? En réalité, tout est possible. Bon, peut-être pas l'or Manodou, rapport au fait qu'elle n'est pas née en 1960.
Ah!
Mais en 62, fini la déconne, on crée le bureau d'investigation du Loch Ness. Là, c'est carrément le FBI du lac, la CIA de la vase. Rien ne sera laissé au hasard dans ce Sherlock.
Sherlock, tu l'as ou pas? Elle était bien celle-là.
Pendant plusieurs années, avec l'aide de volontaires, des expéditions sont financées par diverses institutions. Et en parallèle du bureau, d'autres continuent l'aventure en solo, comme Tim Dinsdale ou Alex Campbell, qui consacrent carrément leur vie au monstre. Après, je sais pas si c'est le bon choix, les gars. Dire sincèrement, vous devriez peut-être miser sur un truc un poil plus concret. Je suis pas une spécialiste, mais quand même, vous pourriez prévoir un petit plan B au cas où, quoi. Ce bureau, il va fermer 10 ans plus tard, sans avoir pu photographier ou filmer quoi que ce soit de très intéressant. Entre 1968 et 1970, c'est au tour de l'équipe de l'université de Birmingham, dirigée par le professeur Gordon Tucker, de s'intéresser aux monstres. Ils organisent des expéditions scientifiques et, à l'aide de sonars, sondent le lac. Ils enregistrent à 2 ou 3 reprises des traces d'une grande masse en mouvement, mais bon, là encore, c'est très vague pour réellement pouvoir prouver quoi que ce soit. En août 72, Robert H. Rhines, de l'Académie des sciences appliquées de Boston, qui est un organisme privé, et aussi son équipe prennent le relais et ils installent tout leur matériel pour prendre des photos sous-marines. Et devinez quoi ? Bingo ! Nessie a pris la pose. Enfin, selon eux, il s'agirait d'une nageoire géante. Mais là encore, c'est du très gros plan, très flou, sous l'eau. On y voit ce qu'on veut bien voir. D'ailleurs, Charles Wyckoff, membre de l'équipe de Rhines, confessera en 84 qu'il s'agissait d'une composition de plusieurs photos améliorées par reconstitution digitale. Ok, donc on repassera pour la nageoire géante, Robert. En 75, ils nous sortent quand même 2 nouvelles photos du chapeau. Donc là, encore, c'est très flou. Hein. On imagine un ventre ou le cou d'un grand animal et sa tête. Après tout, peu importe, hein, ça fait vendre du papier, donc la presse s'empresse de les publier. Robert organise même une conférence de presse avec son ami Peter Scott, un ornithologue, où ils vont annoncer fièrement le nom scientifique de Nessie, Nessitra rhombopteryx. Voilà, ce qui veut dire littéralement le monstre du Ness à nageoire losangique. Voilà. Encore une fois, les spécialistes qui étudient les clichés avec la plus grande intention penchent plutôt pour des débris gisant au fond du lac ou juste de la grosse poiscaille. Voilà. En 1967, c'est la National Aeronautic Society de Washington et le photographe émérite David Doubilet, qui est quand même un super nom, hein, David Doubilet. Bref, il s'y colle. Et là, on sort l'artillerie lourde, gros moyen, caméra sous-marine très perfectionnée, reliée à des sonars ultra sensibles. Bref, s'il y a quelque chose, on va enfin le savoir. Spoiler alert, 7 mois plus tard, on développe les films et devinez quoi ? Aucune trace de Nessie. Alors, on l'a vraiment pas vu venir, ça. On a bien trouvé des saumons, des anguilles, des chaussures, des bouteilles de whisky, même un bombardier Wellington, vous savez, des petits avions de la Seconde Guerre mondiale, mais pas de monstre. On commence à douter sérieusement de l'existence de Nessie. Sans déconner, on commence juste.
Oh bon !
10 années passent, le temps encore une fois d'oublier le passé et de revenir plein d'espoir. Et là, c'est Adrian Shine, un naturaliste, qui, je sais pas ce que ça veut dire naturaliste, mais... Ça doit être un spécialiste de la nature, hein, j'imagine.
Ouais, c'est pas faux.
Bon bref, lui, en 87, il mène l'opération Deep Scan, ou Recherche Profonde en français. Oui, je sais, on dirait un nom de vieux film porno, mais c'est juste une expédition sous-marine. Il y a 24 bateaux, équipés de sonars dernier cri, qui avancent côte à côte, formant une ligne sur les 2 km de largeur, et qui scannent le lac, 2 fois. La presse internationale est présente pour couvrir l'événement, et le 11 octobre, les résultats tombent. Il n'y a que des débris au fond du Loch Ness et les mouvements captés seraient, selon Adrian, des phoques ou des loutres qui ont réussi à pénétrer dans le loch en passant par des écluses. Et vous savez combien il a coûté ce gros reveal ? 11 millions de livres qui ont été dépensés pour ça. Yes ! Enfin, yes, ça a quand même permis de voir qu'il existerait environ 20 tonnes de poissons dans le loch. Or, ce serait beaucoup trop peu pour alimenter un, voire plusieurs monstres. Parce que logiquement, il devrait y en avoir eu plusieurs depuis le temps. En plus, comme a priori l'animal sera un animal à respiration aérienne, comme les reptiles ou les mammifères, il devrait sortir respirer très souvent, genre
900 000 fois par an, selon un scientifique. Qui ferait quand même énormément d'occasions pour le voir. Donc bon, peut-être qu'on pourrait passer à autre chose, non? Genre mettre cette énergie et des moyens au service d'autres trucs. Et là, vous allez me dire, ok, respiration, ok, tronc d'arbre, ok, phoque, ok, loutre, ok, Google. Mais et la photo de 1934, hein? Celle du docteur Wilson, c'était quoi? C'était un fake, peut-être? Eh ben oui, hein, c'était un fake, hein. Le 13 mars 1994, la nouvelle tombe comme un couperet dans le Sunday Telegraph. Christian Sperling, le beau-frère du photographe Marmaduke Wetherell, je galère à dire ce nom, messieurs, dames. Donc, écoutez-le, dites-le, Wetherell, je sais pas. Bref, c'est quelqu'un qui a été engagé par le Daily Mail pour traquer Nessie, soulage sa conscience juste avant de mourir. Le monstre est en réalité un jouet de bois et de plastique collé sur un sous-marin miniature, le tout fabriqué par le beau-frère et photographié par Wetherell. Et pour rendre la chose plus crédible, Wetherell demande à son ami gynéco Wilson d'endosser la paternité du cliché. End of the game. Nessie restera à jamais un mythe, je dirais même le Loch Ness plus ultra des mythes. Voilà. Oui, c'est quand même pas fini, ça serait trop facile encore une fois. On laisse passer encore un petit peu de temps, puis on recommence, hein, la fameuse amnésie collective et l'aubaine lucrative. En 2003, la BBC lance une opération de grande ampleur sur le Loch Ness. Il y a 600 sonars et tracking par satellite qui sont mis en place pour enfin avoir le fin mot de l'histoire. Ce qui fait quand même plusieurs fois qu'on dit qu'on va avoir le fin mot de l'histoire. Et ce, depuis les années 30 quand même. Hein. Bon, en tout cas, le tout est évidemment filmé pour un documentaire qui s'appelle Searching for the Loch Ness Monster. Et finalement, le film conclut par le fait que le monstre du Loch Ness, c'est un mythe. Voilà, on l'avait déjà dit 10 ans plus tôt, puis 10 ans encore plus tôt, puis encore 10 ans plus tôt. Mais enfin, c'est pas grave, hein. On vous aime bien quand même, la BBC. Et là, vous dites, c'est probablement terminé. Non ! En 2018 a eu lieu la dernière grosse enquête, mais cette fois-ci avec un angle différent. Exit les sonars, les bateaux, les caméras, une équipe de recherche universitaire néo-zélandaise a récupéré 250 échantillons d'eau du Loch Ness. Des séquences ADN issues de ces échantillons sont analysées et aucune information génétique ne permet de confirmer la probabilité de l'existence d'un reptile préhistorique. En revanche, il y a bien des anguilles. Voilà, le monstre serait donc une anguille géante ? Rien n'est moins sûr. Depuis, ni photo, ni étude, ni excursion officielle n'ont eu lieu. Hein. Libre à vous de prendre le relais et de débusquer, pourquoi pas, ce fameux monstre du Loch Ness. À moins que le but, justement, ce ne soit de ne jamais le trouver pour entretenir l'espoir qu'il existe quelque part au fond de ces eaux troubles et sombres, comme un petit peu en chacun de nous, un monstre qu'on préfère cacher et ne jamais dévoiler au grand jour. Voilà, ça c'était le monstre du Loch Ness, mais en vulgaire.
Cet épisode de Vulgaire a été écrit par Quentin Thiriot, moi c'est Marine Baousson. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire, queer, rêvant de fonder une famille avec la femme qui partage sa vie. Le podcast « Attendre d'attendre un enfant », c'est l'histoire d'un parcours PMA. C'est l'histoire du mien, que je vous raconte avec force détail, comme si vous étiez mes meilleurs potos. Je m'appelle Sophie Rich et je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Ensemble, on va apprendre des trucs et on va pleurer, mais promis, on va rigoler quand même. Et oh, on n'est pas des bêtes, ok ? Attendre d'attendre un enfant, un nouvel épisode tous les lundis sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.